Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette grande édition du journal. Au micro, Lievin Bouinga. D'abord, l'ossature de ce journal. C'est parti avec la conférence minière, énergie et infrastructure ce lundi à Kindu. Plus de 400 invités de la RDC du monde sont attendus sur place. Une opportunité pour la province du Maniema de vendre ses potentialités. Nous y serons dans un court instant. La RDC et l'Ouganda réaffirment leur engagement à poursuivre les opérations militaires conjointes contre les ADF. Décision prise à Kinshasa lors de l'évaluation des opérations conjointes menées par les armées des deux pays. Lutte contre le cancer du sein, le gouvernement appelé à s'impliquer davantage dans la sensibilisation de la population, le dépistage, mais aussi la prise en charge des malades. L'appel est de Célestin Kachunga, coordinateur général de l'ONG de lutte contre les cancers gynécologiques. Il est l'invité de ce journal. Je le disais en ouverture de ce journal, la conférence sur les mines, l'énergie et les infrastructures s'ouvre ce lundi dans la province du Maniema, organisée par le gouverneur de province, Moussa Kabwankubi Moïse. Cette conférence se veut une opportunité de vendre les potentialités que regorge cette province aux participants. Plus de 400 invités sont venus de différents coins du pays et même du monde pour y participer. Avant l'ouverture, Florence Kizalunga nous explique comment le décor est planté.
Prévu pour 9h RD Kindu, le lancement de la conférence sur les mines, l'énergie et les infrastructures connaît un retard dû aux fortes pluies tombées ce matin dans la ville de Kindu et ses environs. Au moment où je vous parle, l'amphithéâtre de l'OMADE à la faculté de médecine de l'université de Kindu s'est rempli progressivement. Parmi les participants, nous avons les députés nationaux et provinciaux du Maniema, les sénateurs, les gouverneurs et vice-gouverneurs des autres provinces, les professeurs d'université, les leaders communautaires, les chefs de conférences religieuse, le responsable des grandes sociétés minières, de l'énergie et des sociétés de développement. L'objectif visé selon les organisateurs, c'est de présenter toutes les potentialités du Maniema afin d'attirer les investisseurs. Comme vous le savez, selon plusieurs experts, la province du Maniema est la troisième province au pays en termes de réserves minières derrière le Lualaba et le Haut-Katanga. Jusqu'à présent, c'est le ministre national des Mines qui est attendu pour lancer ses travaux de 3 jours, travaux que plus d'un habitant du Maniema attend des retombées pour espérer le décollage de la province. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Et on en vient à cette grève des déclarants en douane issus des différentes corporations du Congo central. Il s'agit notamment de ceux de l'UDECO, REDECO, exerçant à Matadi, à Boma et à Lufu. Cet arrêt de travail dure depuis plus de 10 jours. Ces derniers ont plusieurs revendications, dont le plus saillant est la suppression de la redevance logistique terrestre. D'après Bruno Nzaou du Rassemblement des déclarants consciencieux, REDECO en sigle, cette redevance a été mise en place pour 2 ans, mais ça fait aujourd'hui 10 ans que les déclarants la payent. Selon lui, ceci va à l'encontre de la loi régissant non seulement le code de douane, mais également tous les textes réglementaires et légaux en place. Le point avec Nana Plurich Mambo.
À ces jours, les différents ports de Matadi, de Boma et celui de Lufu sont quasi inopérants. Les déclarants qui les affluent observent une grève depuis le début du mois d'octobre. À travers ces mouvements, ils revendiquent notamment la suppression de la redevance logistique terrestre. Bruno Nzaou, porte-parole du Rassemblement des déclarants conscienciés en sigle REDECO.
Vous savez, ces recettes de la redevance logistique terrestre qu'on appelle communément RLT sont censées relancer le chemin de fer de l'ONATRA ainsi qu'équiper en logistique les ports de l'État congolais. Mais malheureusement, nous avons récemment compris que cet argent était détourné par des individus qui seraient membres d'un certain comité de suivi RLT. Et deuxièmement, nous sommes en train de dénoncer la violation du décret 05 portant institution d'un guichet unique à l'importation et à l'exportation par le Programme national d'hygiène aux frontières et l'Office congolais de contrôle. Vous savez, aujourd'hui, l'OCC, le PNHF, continue à percevoir en dehors de ces guichets, ce qui met à mal nos activités en tant que déclarants douane.
Pendant ces temps à Matadi, cette grève a engendré la rareté et la hausse des produits de seconde main en provenance de l'Europe appelée Bilocost, ainsi que de plusieurs autres produits alimentaires. Au niveau des ports, l'engorgement des conteneurs met en mal les opérations de déchargement des navires. Ces déclarants sollicitent l'implication du chef de l'État pour obtenir gain de cause à leurs revendications. Matadi, Nana plus riche Mambou, Radio Okapi.
Grève également, mais dans un tout autre secteur. Il s'agit cette fois de l'éducation. Plusieurs écoles primaires publiques sont en grève depuis ce lundi matin dans le territoire de Mambasa, situé à 165 km au sud-ouest de Bounia. Cette action fait suite à l'appel du syndicat national des enseignants des écoles publiques qui a décidé de durcir le mouvement de grève sur l'ensemble du territoire national. Lors de leur assemblée générale tenue dimanche, les enseignants ont exigé une amélioration de leurs conditions salariales avant la reprise de cours. Entre-temps, des milliers d'enfants sont privés d'éducation. Écoutons la déclaration de leur porte-parole Patrick Mavané. C'est un extrait sélectionné par Martial Kizabiamungu.
Nous, enseignants des écoles primaires publiques du territoire de Mambasa, réunis à ce jour à l'Assemblée générale évaluative de la grève décrétée depuis le 31 août 2024 sur toute l'étendue nationale pour cause de réclamation des conditions salariales de l'enseignant qui est à misère. Après débat et délibération, l'Assemblée générale décide de continuer avec la grève jusqu'à l'ordre national, comme la grève a été décrété au niveau national, sera levé au niveau national. Aux parents de garder leurs enfants à la maison. Que les autorités cessent avec des intimidations, des remplacements des enseignants qui sont dans leurs droits. Et aussi de cesser totalement d'intimider le président à l'arrestation. En cas d'arrestation du président, les enseignants passeront aux actions de grande envergure et les autorités seront responsables car la grève est constitutionnelle.
Sécurité à présent, la République démocratique du Congo et l'Ouganda ont réaffirmé leur engagement à poursuivre les opérations militaires conjointes contre les ADF. Cette décision a été prise lors d'une évaluation des opérations conjointes menées par les armées des deux pays depuis le 30 novembre 2021 à Beni, au Nord Kivu et en Ituri. Cette évaluation s'est tenue ce week-end à Kinshasa, marquant une étape clé dans la coopération militaire entre les deux nations. Martial Papi Mukeba pour les détails.
Du 10 au 11 octobre 2024, les armées congolaises et ougandaises se sont réunies à Kinshasa pour évaluer leurs opérations conjointes contre les rebelles des ADF. Le général Kayanja Muanga, commandant des forces terrestres de l'armée ougandaise qui dirigeait la délégation de l'UPDF, a déclaré que plusieurs avancées ont été réalisées sur le terrain à ce jour. Les conclusions de cette évaluation ont été présentées au général d'armée Christian Chiwewe, chef d'état-major de FRDC, en présence de l'ambassadeur ougandais en RDC. Selon le général Jacques Ichaligonza, chef d'état-major adjoint de FRDC, les deux pays ont réaffirmé la nécessité de continuer à traquer les groupes terroristes ADF conformément aux engagements pris par le président Félix Tshisekedi et Yoweri Museveni. Le samedi soir, le président Félix Tshisekedi a reçu les commandants de la force terrestre ainsi que les officiers de l'armée ougandaise. Au cours de la rencontre, en présence du chef d'état-major des FRDC, Félix Tshisekedi a donné des instructions claires pour renforcer la coopération militaire entre la RDC et l'Ouganda en fait d'éliminer la menace des ADF. Beni, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
Sachez que sur terrain cette fois, de violents combats ont opposé dans la matinée de ce lundi les rebelles du M23 aux combattants VDP Wazalendo dans le village de Kashuga. C'est dans la localité de Mouesson en territoire de Masisi. Selon des sources sécuritaires dans la zone, des crépitements d'armes lourdes et légères ont été entendus entre 5h et 10h heure locale. Une situation qui a paralysé les activités socio-économiques dans la région, provoquant un mouvement massif de population vers d'autres localités. D'autres sources coutumières locales parlent du renforcement depuis quelques jours des positions de tous les belligérants dans cette zone du Nord Kivu. Restons toujours en Nord Kivu. La directrice des opérations de la Banque mondiale promet une collaboration avec les provinces du Nord et Sud Kivu pour une solution aux problèmes de développement. Madame Anna Biadé, en séjour ce week-end dans la région, s'est entretenue hier dimanche à Goma avec les gouverneurs des deux provinces. Pour elle, l'objectif de sa visite, qui est la première à Goma, vise à évaluer les problèmes et besoins, puis réfléchir sur les réponses que peut apporter la Banque mondiale. Elle le dit ici dans cet extrait choisi par Bernardin Nyangé.
C'est un honneur pour moi de venir ici au Nord-Kivu avec toute l'équipe de la Banque mondiale pour rencontrer les gouverneurs des provinces, également la population, pour les écouter et savoir quels sont leurs problèmes, pour voir comment la Banque mondiale peut aider à collaborer à la solution possible. Nous avons beaucoup de problèmes qui partent de l'insécurité, les conflits ainsi que la pauvreté. Également les catastrophes naturelles auxquelles la province est confrontée, ainsi que les difficultés relatives aux infrastructures de base et aux services de base. Et cela nous permet donc d'avoir une approche globale pour savoir comment l'appui que nous apportons et les financements que nous pouvons apporter permet de résoudre les problèmes auxquels la province est confrontée et également auxquels la population fait face. Bonne nouvelle, c'est que nous avons déjà beaucoup de projets dans les provinces Nord-Kivu et Sud-Kivu que nous allons pouvoir continuer à renforcer, mais également d'autres aspects que nous allons également examiner pour voir comment apporter les solutions.
Additional projects and programs.
Face aux conflits et violences à grande échelle avec des conséquences dévastatrices sur la population dans les Kivu, la Banque mondiale s'engage à favoriser la stabilité dans la région, a dit Anna Biadé. Justice à présent, le journaliste Patrick Lokala de Télé News RDC, toujours détenu au cachot du parquet de grande instance de la Gombe, une semaine après son arrestation. Selon son avocat, les auditions ont été clôturées samedi et une demande de liberté provisoire est déposée ce lundi en attendant la poursuite du dossier. Le journaliste Patrick Lokala est poursuivi pour deux affaires de diffamation. La première l'oppose à un autre confrère et la seconde concerne les magistrats. On écoute Maître Nico Faïl Mbikaï au micro de Grâce Hamzati.
Étant donné que Patrick Lokala, mon client, c'est un journaliste de notoriété éléphantesque, ayant deux adresses mieux connues, c'est-à-dire une adresse professionnelle qui se trouve en pleine Gombe et une adresse résidentielle qui se trouve là où il avait été cueilli comme un grand criminel. Et qu'il présente toutes les garanties au regard de la loi. Il est disposé même à payer une somme à titre de cautionnement. De toutes ces raisons évoquées, il n'y a pas de bonnes raisons que notre client, pour des faits comme ceci, soit détenu préventivement dans ces conditions-là. Vous savez, nous traversons une période où, à Makala, il n'y a presque plus de place, et au cachot même à la Gombe, ici, vous savez que la nuit du 8 au 9, il y a eu évasion là-bas, les détenus restent dans des conditions inhumaines, mais on se pose la question, pour des gens qui commettent des crimes, on les accorde de liberté provisoire, mais pour des faits comme ceci, jusqu'à ce jour, nous estimons que la place de notre client, Patrick Lokala, n'êtes pas le cachot du parquet des grandes instances de Kinshasa-Gombe. Nous sommes confiants en attendant la suite.
Actualité internationale.
Les Mozambicains sont toujours dans l'attente des résultats des élections présidentielles et législatives de mercredi. Alors que les opérations de compilation se poursuivent, l'opposition dénonce déjà des irrégularités, dont l'absence de ses représentants dans certains bureaux de vote. Et puis la pénurie d'antivenins inquiète les populations d'Afrique du Sud. La saison des serpents a commencé dans ce pays, mais l'offre d'antivenins est largement insuffisante. Environ 4000 Sud-Africains sont mordus par des serpents chaque année, mais seuls 600 d'entre eux ont accès à un traitement. Le producteur national de vaccins qui produit des antivenins a considérablement réduit sa production depuis la pandémie de Covid, ce qui entraîne une pénurie.
L'invité.
Lutte contre le cancer du sein, le gouvernement a appelé à s'impliquer davantage dans la sensibilisation de la population, le dépistage, mais aussi la prise en charge des malades. L'appel est de Célestin Kachunga, coordinateur général des ASICAS, une ONG de droit congolais active notamment dans la lutte contre les cancers gynécologiques en cette période dite octobre rose. Puisque dédié à la lutte contre le cancer du sein, Célestin Kachunga rappelle aussi aux femmes l'importance de l'autopalpation. On le suit, il est notre invité.
Monsieur Célestin Kachunga, bonjour.
Bonjour madame la journaliste.
Dans le concret, qu'est-ce que vous faites dans le cadre de cette lutte?
ASICAS, d'abord, c'est une organisation des droits congolais active depuis 2009 en République démocratique du Congo, très engagée dans la prévention et la lutte contre les cancers gynécologiques, dont les cancers du sein, les cancers du col. Nous sommes là dans le cadre de la sensibilisation de la population à ce qui concerne les modes de prévention, parce qu'on a compris que les malades, le plus souvent, se présentent au circuit sanitaire au stade très avancé de la maladie, faute d'informations à ce qui concerne les modes de prévention. À part ça, nous facilitons aussi les dépistages, l'accessibilité au dépistage de la communauté vulnérable à ce qui concerne les dépistages des cancers du sein, les cancers du col. Et nous menons aussi les plaidoyers par rapport à l'homme politique.
Vous parlez de la sensibilisation, c'est à des moments précis, c'est toute l'année. Vous la faites comment et où?
Chez nous, nous faisons une lutte contre les cancers, une lutte continue et non événementielle. Nous, on ne parle pas que les cancers pendant un événement ou la journée mondiale ou pendant l'Octobre rose, non. Nous le faisons chaque jour. Et la sensibilisation, là, est orientée vers la population vulnérable. Par exemple, nous formons d'abord des relais communautaires qui nous accompagnent et vont vers la population les sortir dans l'ignorance qui les éloigne du dépistage précoce.
Vous passez dans des familles, vous allez dans les églises, comment ça se fait?
Voilà, il y a plusieurs approches que nous avons. Il y a des porte-à-porte. Nous organisons des séances de sensibilisation dans les églises, bien sûr, et même dans les entreprises et là où il y a la population. Et on en profite couplé aussi cette sensibilisation au dépistage à partir de nos cliniques mobiles.
Déjà, avoir un membre de famille qui souffre du cancer, c'est un poids pour les familles. Comment vous intervenez pour soutenir ces familles-là?
Oui, c'est ça la difficulté que nous avons. C'est ainsi que j'en profite encore de mener peut-être un plaidoyer par le canal de votre chaîne parce que vous parlez de la prise en charge. La prise en charge dans notre pays est tellement coûteuse. Je vais vous donner quelques exemples. Pour une dame qui se présente au stade, par exemple, 1 ou 2, parce qu'il y a des stades, ça dépend des stades.
Le stade 1, c'est-à-dire le début?
Oui, c'est encore au début qu'on peut guérir parce que le cancer est curable s'il est détecté à temps. Dans notre pays, il faut avoir au minimum dans le 30 000 dollars. Ce qui n'est pas à la portée de toutes les bourses.
Au premier stade?
Au premier stade, bien sûr. Donc là, peut-être, il faut la chirurgie et couplée peut-être à la chimiothérapie.
Selon vous, qu'est-ce qu'il faut pour améliorer le dépistage et la prise en charge du cancer dans notre pays?
D'abord, c'est la prise en compte de la lutte contre le cancer par l'homme politique et non d'attendre de parler des cancers lors d'un événement. Donc, avoir un programme spécifique et opérationnel. Il est vrai qu'il y a un centre national de lutte contre le cancer, mais permettez-moi le terme, ça existe, mais ce n'est pas vraiment opérationnel. Il ne faut pas rester dans les conférences scientifiques, non. Il faut aller vers ces populations-là, les soutenir. Normalement, à l'avant-plan, c'est le gouvernement. Je ne cesserai jamais de dire, tant que le gouvernement ne s'implique pas, on continuera à mourir parce que nous, les ONG, nous supportons les poids que le gouvernement peut assurer. Ça veut dire quoi? À tout moment, on nous contacte. Peut-être votre téléphone sonne par rapport à autre chose. Mais moi, mon téléphone sonne par rapport aux malades de cancer. Je suis concerné d'un cancer. Je manque l'argent. Je suis allé telle place. Voilà la facture, 50 000, 100 000 dollars. Alors que le gouvernement peut collaborer avec ces structures-là, les faciliter, exonérer quelques taxes pour réduire un peu les coûts. C'est ce que nous sollicitons. Et non seulement des parler lors des événements. Nous sommes à l'Octobre rose, le 4 février, c'est la journée mondiale des discours qui n'avantagent pas les malades.
Pour terminer, un message à la population à l'occasion de l'Octobre rose.
Chers compatriotes, le cancer existe et tue notre communauté. Et vous devez être prudente en observant ou en faisant des gestes de l'autopalpation. Ça veut dire à partir de soi-même, on peut se dépister avant qu'on aille voir les médecins avec des gestes simples qui ne demandent pas des moyens. Debout devant un miroir, vous regardez vos seins. S'il n'y a pas des anomalies, parce que le plus souvent, les cancers du sein se développent sous forme d'une boule au niveau du sein. Mais toute boule, attention, n'est pas synonyme à un cancer du sein. La boule qu'ils sont en train de faire allusion ici, c'est la boule lorsqu'on palpe les seins. La boule est statique, ça colle. Mais lorsque vous palpez votre sein et la boule bouge, c'est bon. Mais lorsque vous avez aussi, vous remarquez que vous avez une boule statique, il ne faut pas vous enflammer, allez voir un médecin qui va peut-être vous orienter vers la mammographie pour avoir des examens approfondis et aussi regarder s'il n'y a pas des écoulements autres que les maternelles. Et les gestes d'autopalpation se font chaque mois, une semaine après les règles. Et si vous êtes ménopausé, vous choisissez une date fixe les mois, vous passez vos gestes d'autopalpation.
Célestin Kachunga, merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci beaucoup, madame.
Voilà, vous avez certainement reconnu la belle voix de Babel Pongo Massimango et c'est la fin de ce journal. Merci à Martin Sebujangwa, Élisée Chikota et à Billy Landry Betou.